Bon, alors comme vous allez le voir, il y a un certain contraste entre vos présentations, c'est très bien, ça va permettre de discuter. Alors moi, je dois dire d'où je parle. Là, je parle en tant que fonctionnaire chargé d'auditer, d'évaluer les politiques publiques et de conseiller les princes au ministère du Développement durable. Et donc, je me situe effectivement du côté de ceux pour qui les conditions sociales de la transition écologique sont un problème à résoudre. Donc, la question de l'acceptabilité, naturellement, je vais tenter de la replacer dans le cadre d'une réflexion sur les conditions sociales de la transition écologique, et je vais en rajouter dans la provocation en disant que la société durable ne peut, semble-t-il, pas être pensée à partir d'une observation ou d'une analyse des faits sociaux actuellement observables. On est obligé à un moment quelconque de partir des contraintes exercées par la nature sur l'économie, le social et la culture. Parce que quand on prend n'importe quel problème un peu dur de développement durable, on est obligé de constater que les impératifs qui découlent d'objectifs de durabilité apparaissent complètement inacceptables pour la société, et je donnerai quelques exemples. Donc il y a un moment où on ne peut pas procéder en quelque sorte par continuité. On est obligé de changer de logique et de penser qu'il y aura des catastrophes, des ruptures, et donc, et j'y reviendrai, il me semble que le travail des sciences sociales, c'est d'aider le politique à construire des récits de la transition pour faire en sorte que ces ruptures soient, que la société soit aussi résiliente que possible quand les catastrophes se produisent. Alors ça, c'est le schéma habituel, familier du développement durable, les fameux trois piliers, et jusqu'à il y a peu, le discours politique, c'est ce qui est sorti du Grenelle de l'environnement, par exemple. On a trois piliers, le social, l'économie, l'environnement, et on va rechercher des scénarios gagnant-gagnant. Alors, il faut que ça soit viable, c'est-à-dire satisfaisant du point de vue environnemental et économique. Donc, on crée des activités, de la croissance verte, tout ça, que ça soit équitable, qu'il y ait de la justice environnementale, par exemple, et puis sur le plan de l'habitat, de la vie sociale, tout ça soit vivable, finalement. Tout ça, c'est le développement durable. Alors, tout ça, bien sûr, c'est l'idéologie. Ce qu'on constate en réalité, quand on regarde, quand on analyse les processus de décision réels au jour d'aujourd'hui, c'est que dès que l'environnement entre en conflit fort avec le social et avec les problèmes d'acceptabilité, quand par exemple une commune veut construire une zone pavillonnaire sur un espace protégé, c'est presque toujours les impératifs sociaux qui l'emportent. Et puis finalement, tout ça, c'est immergé dans des méga contraintes, dans la méga contrainte économique, c'est-à-dire qu'on finit toujours par regarder combien ça coûte, et les économistes eux-mêmes n'ont pas renoncé à tout ramener à un référentiel monétaire, y compris en donnant un prix à la nature, au social, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la durabilité faible, qui a encore quelques partisans chez les économistes et qui pensent que tout se ramène finalement à un système de prix et que le marché constitue le cadre adéquat pour assurer le bon fonctionnement de tout ce système. Mais en réalité, moi, je suis avec un certain nombre d'autres personnes, je suis plutôt partisan de la durabilité forte, c'est-à-dire de considérer que l'économie n'est qu'un sous-système du social et que, après tout, on peut très bien décréter du jour au lendemain qu'on met fin à la dette public en faisant fonctionner la planche à billets ou en gérant différemment l'euro et en faisant de la redistribution. Donc l'économie peut très bien se soumettre aux contraintes du social, dans une certaine mesure, mais qu'à un moment donné, l'environnement finira par imposer sa loi parce que nos systèmes économiques et sociaux sont des sous-systèmes de la biosphère. Et si on prend ça au sérieux, je vais quand même le justifier un tout petit peu, ça n'apparaisse pas comme une affirmation purement idéologique, ça veut dire qu'à un moment quelconque, un moment ou un autre, la question qui se posera par nécessité, c'est de se demander comment rendre ces contraintes acceptables, on trouvera l'acceptabilité, et je voudrais montrer que ça n'est pas simplement un problème micro de faire accepter localement telle ou telle contrainte, mais que c'est beaucoup plus la création d'un cadre, un cadre de rationalité, dans lequel la préservation de la biosphère fasse sens et soit naturellement intériorisée de la même manière qu'aujourd'hui. Quoi qu'en disent les gens, même s'ils sont des militants à attaque ou au front de gauche, ils ont parfaitement intériorisé la logique économique et, qu'ils le veulent ou non, quand ils vont faire leur marché, ils se conduisent en homo economicus. Et le sujet, c'est d'arriver à créer un homo viabilis qui intériorise son rapport à la biosphère de la même manière qu'aujourd'hui, nous intériorisons parfaitement notre immersion dans l'économie monétaire. Alors l'économie reste dépendante de la nature. Bon, je l'ai dit, hein, l'économie est un sous-système de l'écosystème planétaire et donc soumis à ses lois. Et un exemple, par exemple, la majorité de nos ressources, que ce soit les ressources alimentaires ou énergétiques, dépendent de la photosynthèse. On peut estimer que dans tout ce que nous mangeons et tout ce que nous utilisons pour nous chauffer, nous déplacer, etc., la totalité, la quasi-totalité, est le résultat de l'activité d'organismes vivants qui ont fonctionné, qui ont produit des molécules complexes, etc. Et c'est une illustration un peu caricaturale, il faut bien faire l'image. De notre dépendance, du fait que nous sommes aussi dépendants du système vivant que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui étaient évidemment très dépendants d'écosystèmes locaux. Et, comme le dit Lester Brown, qui est un anthropologue américain, dans la nature, les flux linéaires à sens unique ne survivent pas. Ils ne peuvent donc survivre dans l'économie humaine, c'est-à-dire qu'un système économique qui est fondé sur ce qu'on pourrait appeler un paradigme minier, où on considère la nature comme un ensemble de ressources que l'on peut piller, on creuse un trou, puis quand il n'y a plus rien dans le trou, on creuse un trou à côté pour y extraire ce dont on a besoin. Ben, ce paradigme-là, il ne pourra pas fonctionner longtemps, et il faudra inventer donc une autre manière de fonctionner en symbiose avec la biosphère. Alors concrètement, il y a un certain nombre de modifications irréversibles de notre environnement qui sont potentiellement porteuses d'un effondrement de la civilisation. L'épuisement des ressources vitales pour l'économie, combustibles fossiles, l'échéance a été un peu reculée par les gaz de schiste, mais elle existe toujours. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a peut-être une dizaine, une vingtaine de métaux absolument indispensables à l'industrie pour lesquels les ressources trouvés sont entre 15 ou 20 ans. Le changement climatique, j'y reviendrai, c'est le problème le plus massif, le plus majeur. Bon, déclin de la biodiversité, c'est évident que si l'exemple de la photosynthèse illustre, mais il y en aurait bien d'autres, tous les liens qui relient l'activité, par exemple l'activité agricole, on l'a vu avec les abeilles, etc., mais il y a beaucoup d'autres exemples à la biodiversité. Et puis il y a l'épuisement, la pollution des aquifères continentaux, l'usure des sols, la pollution chimique diffuse. J'en passe et des meilleurs, toutes ces évolutions, aucune de ces évolutions ne pourrait se poursuivre pendant des siècles sans grave dommage. Donc, le problème majeur sur lequel je ne vais pas insister beaucoup, mais quand même il faut faire. On en parle tellement peu au milieu du fracas de l'actualité que je me fais un devoir quand même d'en remettre une couche, parce que sinon, il faut bien que les gens qui s'occupent de ça ramènent ça sur le tapis, parce que nos politiques en parlent tellement peu qu'on finira par l'oublier. Or, il y a bien dans le changement climatique une menace pour la pérennité de notre civilisation. On s'est fixé des objectifs de réduction des émissions qui sont compatibles avec la limitation du changement climatique, avec des hypothèses scientifiques qui sont soumises à beaucoup d'incertitudes, enfin qui représentent la moyenne de ce que pensent les experts, et qui disent que les pays riches devraient diminuer par 4 leurs émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Et donc pour la France, on a traduit ça dans le facteur 4, qui est dans l'exposé des motifs d'un certain nombre de lois, etc. Or, ces objectifs ne pourront être atteints sans changement profond dans l'organisation économique et les modes de vie. Je viens de participer à un rapport avec quelques collègues, un rapport relativement fouillé à partir de la synthèse d'un grand nombre de travaux et d'études existantes, qui montre que, avec les technologies qui sont dans les cartons et les réformes, les efforts, les politiques qui sont actuellement entreprises, en matière d'isolation thermique, en matière de réduction de la consommation des véhicules, en matière d'efficacité énergétique dans l'industrie et de changement à la marge d'un certain nombre de comportements, nous sommes partis, et encore en étant relativement optimistes, pour obtenir une division par 2,5 des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Or, nous sommes persuadés que le facteur 4 est un objectif extrêmement important qu'il ne faudrait pas du tout lâcher. Bon, les négociations internationales sont dans l'impasse, mais ça n'est pas une raison pour ne rien faire. Il y a des mesures d'adaptation qui sont aujourd'hui de plus en plus mises au sérieux, ce qui prouve bien quand même que le changement climatique n'est pas un mythe, puisque dans tous les ministères, aujourd'hui, il y a des gens qui planchent sur les nouvelles pratiques agricoles, les nouvelles manières de construire des logements pour faire face à des situations de canicule, la résilience des réseaux, par exemple, ou les problèmes de qu'est-ce qu'on fait pour refroidir les centrales nucléaires si on a une grave sécheresse et que les systèmes de refroidissement ne sont plus approvisionnés. Enfin, toutes ces questions qui sont relèvent de ce qu'on appelle des mesures d'adaptation, à la fois sur le plan technique et sur le plan social, c'est la problématique de la résilience qui devient très. C'est un mot dont on va parler de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui pensent aujourd'hui en termes de résilience, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit une société qui résiste le mieux possible à un certain nombre de déstabilisations. Mais, évidemment, si on a un réchauffement qui va au-delà de 5-6 degrés, la question de la résilience, on aura du mal. Bon, ça, c'est pour faire un cours, mais c'est simplement pour montrer que le réchauffement climatique, c'est un phénomène extrêmement élémentaire qui est accessible à n'importe quel collégien, qui est connu depuis le 19e siècle, et le fait qu'il y ait des controverses scientifiques sur est-ce qu'il y a vraiment ou pas réchauffement lié au gaz carbonique, c'est un phénomène absolument incroyable qui montre à quel point on est là dans l'inacceptable pour le coup. C'est-à-dire que les conséquences de ce fait sont tellement inacceptables qu'on en vient à mettre en doute quelque chose que n'importe quel collégien devrait considérer comme tout à fait vraisemblable. Bon, ça, c'est les courbes qui montrent le réchauffement. La température moyenne du globe. Ça, c'est juste une illustration, parce que moi, je suis un montagnard, je fais de la montagne, et il y a quelque chose d'assez traumatisant dans ce qu'on voit en montagne quand on regarde les conséquences du réchauffement climatique. Là, vous voyez un beau glacier qui descend du Cervin au début du XXe siècle, et puis là, vous voyez qu'il a complètement disparu. Enfin, ça ne vous apprendra rien, mais c'est juste pour montrer le côté un peu sensible de la chose. Ça, c'est l'évolution des zones du Groenland qui sont soumises à fonte estivale. Bon. Et puis ça, alors ça, c'est, ça montre l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Et au cours des dernières années, bon, vous voyez, Grenelle de l'environnement ici, on fait beaucoup d'efforts. Et en fait, on a une certaine baisse dans les dernières années, mais en fait, elle est due essentiellement à la crise économique. Et sinon, on a obtenu très peu de résultats. Vous voyez, émissions dues au transport, au résidentiel tertiaire, à l'industrie, etc. Tout ça n'évolue pas beaucoup. Alors, quelles seront les conséquences? Bon, ben, hausse du niveau de la mer de plus d'un mètre peut-être à la fin du siècle, multiplication des événements climatiques extrêmes, canicules, sécheresses, ouragans, inondations, aggravation des pénuries d'eau, baisse des rendements agricoles, accélération du déclin de la biodiversité, problèmes sanitaires avec effet des canicules et des contrastes saisonniers plus marqués, des remontées de maladies tropicales, et bien sûr, conséquences humanitaires avec migration de centaines de millions de personnes qui viendront frapper à nos portes. Alors, les réponses sont aujourd'hui insuffisantes. On voit bien le développement durable, croissance verte, etc. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent sur des sujets liés à l'écologie, au développement durable. On est nombreux sur le pont, si je puis dire. Il y a beaucoup de règles d'implémentation, de textes de loi, etc. Et pour autant, les choses n'évoluent pas énormément. Un indicateur qui résume tout ça, c'est le rythme du découplage entre la croissance et les ressources rares. Ça s'appelle la productivité des ressources. On met au numérateur la production mesurée en euros et au dénominateur, un indicateur qui représente de manière synthétique toutes les consommations de ressources naturelles, d'énergie, etc. Et on voit que cette productivité de ressources, elle a augmenté de 22% de 1990 à 2008. Ce qui veut dire que c'est pas mal, c'est intéressant, mais on est très loin du compte si on pense au facteur 4, par exemple. Et donc, on voit qu'on a des contradictions frontales qui paraissent insolubles entre les impératifs socio-économiques et la production de l'environnement. Alors, il y a un sujet pour lequel c'est particulièrement net et pour les fonctionnaires de mon ministère, notamment les fonctionnaires de terrain, c'est tous les problèmes liés à l'occupation des sols. On leur dit d'un côté qu'il faut préserver tous les espaces naturels, il faut lutter contre l'artificialisation de l'espace, il faut une ville dense pour limiter les déplacements, etc., etc. Et de l'autre côté, une pression sociale extrêmement forte pour continuer à construire des maisons avec 1000 m² de jardin à 50 km² à 50 km des centres-villes, drainer des zones humides qui sont riches en biodiversité, construire des infrastructures de transport qui fractionnent l'espace et donc favorisent le déclin de la biodiversité, etc., etc. Et tout ça, comme je l'ai laissé entendre, pour l'instant, c'est le pot de terre contre le pot de fer, c'est-à-dire l'écologie retarde un peu certains processus, mais en gros, on peut considérer que l'économie finit toujours par l'emporter. Et finalement, le plus préoccupant, c'est qu'il n'y a pas de miracle technologique en vue qui nous sortirait de tout ça. On peut le voir, il y a des recherches sur la fusion nucléaire, mais elles n'aboutiront pas avant un certain nombre de décennies, si elles aboutissent, ce qui n'est pas du tout certain. On a l'énergie renouvelable, il y a bien sûr beaucoup de recherches, mais pour l'instant, ça reste quand même très très en deçà de ce qu'il faudrait. Et finalement, c'est encore le nucléaire de la quatrième génération qui offre peut-être les meilleures perspectives de produire de l'énergie décarbonée en quantité suffisante. Alors, j'en viens maintenant à mon sujet, enfin au sujet plus directement lié au thème, c'est la question de comment construire une acceptabilité sociale. Alors, on voit bien que les tendances spontanées de la société se traduisent par des comportements de moins en moins durables. Les trois exemples, la température dans les logements, on voit que on dépense beaucoup d'argent pour isoler, pour améliorer l'isolation thermique des logements, mais on ne produit pas les gains d'énergie auxquels on s'attend, parce que tout simplement, quand les gens ont un appartement mieux isolé, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils chauffent davantage. Donc les gens chauffent à 23, 24 degrés, quitte à ouvrir largement leur fenêtre pour changer, pour aérer. Et tout ça, bien sûr, fait qu'il... Et puis dans le même temps, on a des phénomènes comme la décohabitation, le fait qu'il y a plus de gens qui divorcent, plus de familles monoparentales ou recomposées, et tout ça, ça se traduit, plus des exigences de confort croissantes, par une augmentation du nombre de mètres carrés par personne, et finalement, toutes ces tendances sociales, elles vont à l'encontre de l'objectif que l'on se fixe. La mobilité, je vais juste donner un petit graphique après, mais on voit bien que la mobilité reste, pour nos contemporains, un des aspects les plus désirables de la croissance et du progrès. Pouvoir prendre l'avion pour partir en vacances à l'étranger, pouvoir habiter à la campagne et travailler en ville, etc., etc. Et finalement, l'occupation des sols, j'en ai parlé, donc les contradictions sont également très fortes. Juste un graphique pour montrer, vous voyez, c'est des tendances concernant la mobilité. On ne voit aucune inflexion, malgré tout ce qu'on raconte sur la mobilité durable, etc. On ne voit aucune inflexion dans les comportements sociaux. Alors, si on prend maintenant les choses par l'autre bout, si on dit qu'on doit, si on ne veut pas se tirer du mal dans la tête en faisant de la sociologie, il faut prendre une autre démarche qui consiste à prendre une approche normative, en quelque sorte, et se dire comment est-ce qu'on peut imaginer une économie durable, et ensuite, est-ce qu'on peut faire le récit d'une société qui va bien, d'un fonctionnement social qui s'harmonise avec cette conception de l'économie. Alors, ce qui se paraît évident, c'est qu'il faudra dématérialiser la croissance. Alors ça renvoie par exemple à la fois à l'idée d'une économie davantage tirée par l'immatériel, par les services, par la culture, etc. Et aussi par l'idée d'économie circulaire. Et on peut prendre l'exemple de l'économie de fonctionnalité, qui est un exemple assez caractéristique de ce qu'on entend par l'économie circulaire, avec le Vélib, ou le système d'autopartage, qui repose sur l'idée qu'on doit pouvoir produire davantage de fonctionnalités, davantage de services, avec moins de flux matériel. Donc, maximiser l'utilité sociale produite à partir de certains objets et donc de certains flux d'énergie et de matière. Une autre idée, c'est qu'il faut imiter la nature. La nature est parcimonieuse, elle recycle, elle pratique la mutualisation, la coopération, c'est ce qu'on appelle parfois le paradigme symbiotique. Et puis plus radicalement, donc tout ça, ça amène à définir l'économie d'une manière différente de ce que l'on entend habituellement par économie, et de penser plutôt à l'économie comme l'économie domestique, le père ou la mère de famille qui gère le budget et qui se trouve en début de mois avec une certaine somme d'argent et qui se dit comment est-ce que je vais pouvoir dépenser cette somme d'argent de la manière la plus efficace possible pour dépenser moins et faire en sorte que tout le monde soit heureux et épanoui dans la maison. On va plutôt penser l'économie comme ça, alors que jusqu'ici, dans l'économie capitaliste, que nous connaissons, le but de l'économie, c'est plutôt de maximiser les flux, de développer les échanges, d'accroître l'activité, je dirais, indépendamment presque du bien-être, de l'utilité qu'on en tire. Donc il y a vraiment un changement conceptuel auquel on n'échappera pas, de redéfinir l'économie comme l'art d'économiser. Tout ça conduira à une combinaison de changements techniques et sociaux. Et sociaux, pour moi, ça veut dire organisationnel, politique, culturel, etc. Je prends le mot social dans son sens le plus extensif possible. Et il y a dans ces changements, il faudra les faire accepter. Alors, je fais de la provocation en disant « faire accepter », parce que ça voudrait dire qu'il y a quelque part des technocrates qui bourrent le prix des gens, etc. Évidemment, ce n'est pas du tout comme ça que ça peut se passer. Ça veut dire que c'est un changement collectif qui passe par tout un ensemble de transformations qui seront à la fois bottom-up, top-down, qui passeront par des outillages, mais aussi par des dynamiques sociales. Et pour moi, il faut penser cette transition comme un défi anthropologique. En effet, les obstacles sont énormes, il y a une terrible inertie des comportements et des attentes sociales. On voit que notre système actuel est soutenu par une cohérence globale des croyances, des désirs et des répertoires d'action. C'est-à-dire ce que les gens jugent rationnel de faire, ce que l'on croit être la bonne manière de vivre et la bonne manière de désirer, en quelque sorte. Et finalement, le fait que la finitude et la fragilité de la biosphère est une réalité qui n'est non prise en compte, qui est absente des représentations qui sous-tendent notre agir collectif. Et du coup, on peut dire que les formes d'organisation dont s'est dotée l'humanité ne garantissent pas sa survie. Alors, derrière tout ça, pour illustrer un obstacle et en même temps en creux, d'une manière paradoxale, ce vers quoi il faut aller, il y a le mot sur la cohérence de l'ordre économique. En effet, la raison économique tire sa force, pas seulement de ces méchants capitalistes qui nous dominent et qui s'en mettent dans les poches, mais du fait que la raison économique apporte une solution apparemment efficace au problème de la cohérence de l'action. Il y a une raison économique qui a une grande force et qui est tellement forte qu'on finit par l'oublier et que même les gens qui la critiquent fortement finissent par oublier à quel point ils sont immergés dedans. Donc on a une des forces de la rationalité économique, c'est qu'elle permet d'inscrire la rationalité individuelle dans une rationalité collective, c'est-à-dire chacun se préoccupe dans son travail d'être plus performant, de gagner plus, d'épargner davantage, de donner de l'argent, de laisser un gros magot à ses enfants au moment de l'héritage, etc. Et tout ça est censé être bon pour la collectivité. Les profits d'aujourd'hui génèrent les emplois de demain et finalement on prépare le bien-être des générations futures. Donc il y a une rationalité, il y a à la fois une possibilité pour chacun d'inscrire ses buts personnels dans une rationalité collective qui ne les contredit pas et qui les renforce plutôt, et en même temps on a un allongement des séries téléologiques, pour prendre un vocabulaire philosophique, c'est-à-dire que l'économie est supposée permettre la continuité des buts à divers horizons. C'est-à-dire que je m'enrichis, mais en même temps, je m'inscris dans une dynamique de croissance qui a sa logique, etc. Et puis finalement, dernier point, un des derniers aspects de cette force de l'économique, c'est qu'elle a un aspect mimétique très important. Alors là, je me réfère à une partie des travaux pensés de René Girard sur la force du désir mimétique, c'est-à-dire qu'il y a un renforcement de nos propres attentes vis-à-vis de l'économie, du fait que nous sommes sans arrêt, on nous donne sans arrêt des modèles à travers la publicité, mais pas seulement, simplement à travers le spectacle général de la société qui font que nos attentes vis-à-vis de l'économie se renforcent mutuellement. Donc, il y a une dimension mimétique qui a été analysée par exemple par quelqu'un comme Jean-Pierre Dupuis, qui voit que la concurrence marchande permet donc d'apprivoiser la mimésis d'appropriation, c'est-à-dire le fait que nous soyons des rivaux pour l'accaparement des biens, ça se traduit par une concurrence marchande qui génère finalement de la productivité, de la croissance, etc. Et comme le dit Jean-Pierre Dupuis, l'économie contient la démesure et la violence aux deux mots du verbe contenir, c'est-à-dire qu'elle représente une violence, qui est une violence dans les rapports économiques, et une démesure qui fait que, par exemple, on voit des capitaines d'industrie qui sont des gens qui ont une espèce de démesure dans leur désir de puissance, etc. Mais en même temps, tout ça est contenu au sens où ça ne dégénère pas en violence ouverte de tous contre tous. Et puis, donc, comme ça a été analysé par Orléans, par exemple, le fondement mimétique de la valeur monétaire, la monnaie, elle existe parce que tout le monde y croit. Et finalement, nous croyons tous, de manière mimétique, au caractère sensé de l'ordre économique, quoi qu'on nous dise du caractère non soutenable, non viable, scandaleusement inégalitaire de tout ce système, finalement, spontanément, nous sommes quand même tentés de croire qu'un sou est un sou, qu'un euro est un euro, et que s'enrichir, finalement, c'est quand même assez logique. Et finalement, on peut dire qu'il y a une attractivité des modèles de conduite rationnelle qui permettent la continuité des buts et qui sont un peu derrière cette attractivité de la raison économique. Malheureusement, donc, cette rationalité, elle n'est pas soluble dans l'impératif écologique n'est pas soluble dans cette raison économique à cause de la non-substituabilité des biens. Il y a des irréversibilités, le climat peut se détériorer de façon irréversible, et ça n'a pas de prix, il n'y a pas moyen de transformer en euros et de mettre sur un marché le fait que la civilisation ait des chances de survie ou non. La discontinuité des temps, on ne peut plus faire comme si, grâce à un taux d'actualisation correctement calibré, on puisse en quelque sorte établir un rapport d'équivalence entre notre bien-être et le bien-être des générations futures. Si on applique un taux d'actualisation même très faible, de 2% par exemple, et le rapport Stern l'a bien montré, il y a toujours un moment où nos descendants du siècle prochain, leur sort n'a plus aucune importance par rapport aux nôtres. Donc il y a une incompatibilité radicale entre l'équité intergénérationnelle et l'utilisation d'une pensée économique pour penser notre rapport au temps. Et finalement, donc, le fait que l'économie, ça résume un peu tout ça, est un sous-système de la biosphère, alors qu'elle se pense, d'une manière ou d'une autre, comme une totalité. Alors, comment passer d'une cohérence mimétique à une autre? C'est bien ça, à mon avis, la question qui est posée, notamment aux sciences sociales. Alors, il y a des aspects institutionnels qui ont bien été développés par le philosophe Dominique Bourg, qui montre que les phénomènes, les mécanismes de la démocratie représentative tels qu'ils fonctionnent actuellement sont intrinsèquement court-termistes parce qu'ils favorisent l'expression par chacun de désirs individuels à court terme. On est dans un rapport de vis-à-vis des élus qui nous incite à mettre en avant des préoccupations de court terme et des préoccupations matérielles. Et il propose non pas de remettre en cause la démocratie représentative, mais de la compléter par un certain nombre de mécanismes, comme par exemple la création d'une académie du futur qui soit un conseil de sages qui soit chargé, pour chaque décision, de rappeler le point de vue des générations futures, de donner un point de, d'essayer de donner une représentation fictive, en quelque sorte, aux, à nos descendants dans les décisions futures. Alors, ça veut dire, bien sûr, une organisation économique subordonnée aux impératifs écologiques, avec une fiscalité écologique, avec des normes qui imposent l'éco-conception aux industriels de produire des objets qui durent longtemps, qui sont faciles à maintenir, qui sont faciles à réparer, etc. Donc il y a tout un aspect à la fois de réglementation, d'incitation, etc., de, même d'organisation de certains marchés, comme les marchés de droits d'émission. Et puis, donc, il y a évidemment des actions au niveau des représentations, des valeurs, et également une action au niveau des modèles de conduite, d'exemplarité, et également la question de savoir comment donner une valeur un peu transcendante aux impératifs de survie de l'espèce. Alors, les aspects institutionnels, j'en ai parlé un petit peu, et puis il y a des aspects également qui sont, j'ai parlé des institutions garantes du droit des générations futures, puis il y a la question du contrôle social. Alors j'ai un fils qui habite en Suisse, à Zurich, c'est la ville la plus écologique que l'on puisse imaginer, mais on voit très bien que quand on regarde le modèle suisse, on voit que le contrôle social joue un rôle important, c'est-à-dire qu'il est admis qu'on doit pouvoir critiquer son voisin si... s'il laisse tomber un papier gras dans la rue, s'il ne fait pas son tri de déchets, etc. Alors tout ça en France, c'est évidemment agiter un gros chiffon rouge, si on parle de contrôle social, mais d'une certaine manière, on l'a bien vu que ça a fini par marcher avec les crottes de chiens dans la rue, on a fait un peu de contrôle social, et tout le monde a trouvé ça normal, et maintenant on peut marcher dans la rue sans se salir les pieds. Donc ça, je vais vous parler, normes, incitation, démembrement du droit de propriété et gérance collective des biens. Je fais référence aux travaux d'Elinor Ullström, qui montre que à travers la prise en compte du caractère collectif d'un certain nombre de biens communs, on est en fait en train de démembrer le droit de propriété et d'accroître le champ d'un domaine qui est celui de la gérance collective des biens. L'exemple le plus simple pour illustrer ça, c'est une agence de l'eau. Les agences de l'eau, qui sont ces institutions qui gèrent les problèmes de qualité de l'eau à l'échelle d'un bassin fluvial et dans lequel sont représentés les agriculteurs, les industriels, les élus locaux, et qui représentent assez bien ce vers quoi il faudrait aller si on suit le numéro. Et puis, bien sûr, il y a une question tout à fait évidente, qui est celle du partage. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de viabilité sociale, d'acceptabilité sociale d'une nouvelle organisation et d'un mode de développement plus durable s'il n'y a pas une redistribution drastique et une réduction drastique des inégalités. Et on le voit très clairement dans les négociations sur le climat, où on voit qu'on n'avancera pas si les Américains n'acceptent pas de considérer qu'ils doivent faire un effort plus important que les autres, parce qu'il n'y a pas de raison que tout le monde fasse un effort s'il y en a qui continuent à émettre 5 fois plus de gaz à effet de serre que les autres. Donc la question du partage dans l'accès aux ressources rares est une question dont les gens n'ont pas vraiment pris conscience. Les gens qui pensent qu'il y a une contradiction frontale entre le social et l'écologie n'ont pas vraiment compris le film, parce que si on prend l'écologie au sérieux, ça veut dire que le social va revenir de manière extrêmement forte et de manière encore plus vigoureuse que ce qu'on peut généralement imaginer. Alors il y a aussi bien sûr des aspects concerne les valeurs et les représentations, sobriété, sens de l'harmonie, le développement durable comme style de vie, comme modèle d'existence désirable, fondé sur la beauté, le plaisir de vivre dans un environnement agréable, la lenteur, le mouvement des slow cities, on essaye de développer un idéal fondé sur... on se calme, on ralentit, on introduit plus d'harmonie et de douceur dans nos rapports sociaux. L'intelligence écologique, c'est développer la formation, notamment à travers l'éducation, pour développer une vision systémique, une compréhension des interdépendances et, d'une certaine manière, une intériorisation de notre rapport à la biosphère et de notre rapport au vivant, nous apprendre à nous penser comme des vivants solidaires d'un ensemble d'autres espèces. Alors, ça renvoie notamment à la question du biomimétisme, l'intérêt qu'il y a à observer la nature, à observer les processus naturels pour s'en inspirer. Alors, en matière de chimie verte, c'est très important. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui, par exemple, sûrement entendu parler de ces travaux pour produire du fil d'araignée, pour produire de nouveaux textiles, etc. Donc, il y a cette prise de conscience du fait que la nature a développé tout un ensemble de connaissances, de savoirs, de process qui sont assez admirables et qui peuvent nous être très utiles. Et puis enfin, ça me concerne davantage en tant que technocrate, il y a le fait de développer des nouveaux outils d'évaluation et de mesure des performances qui nous rendent sensibles à une autre manière d'évaluer et de valoriser nos propres performances. Alors je vais juste donner cet exemple. Ça, c'est mon compteur instantané de carburant quand j'ai changé de véhicule. Et j'ai constaté que le simple fait de voir afficher sous les yeux la consommation instantanée de carburant, ça donne une autre idée de ce que c'est que bien conduire. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand on n'est pas très content quand on voit ça sur son compteur et on se dit, mais c'est, je conduis comme un con. C'est pas comme ça qu'il faut conduire. Mettre 5 km à l'heure de moins et puis consommer presque moitié moins, finalement c'est pas mal. Et donc tout ça pour illustrer le fait qu'il faut, grâce à des instruments de mesure et de représentation qui objectivent notre rapport à la biosphère, développer une autre façon de une autre conception de la performance et de la qualité qui rendent d'une certaine manière le développement durable désirable. J'ai fini. Il y a plus finalement des modèles de conduite, d'exemplarité, de transcendance, gouvernés par des gestes cohérents. Tout ça est impossible si les politiques continuent à dire tout et n'importe quoi et son contraire. Ça veut dire qu'on ait des politiques publiques cohérentes, qu'on accepte de parler de contrôle social, qu'on valorise l'importance de l'exemplarité, c'est-à-dire que les élites donnent l'exemple, avec une question: la raison écologique peut-elle contenir la démesure, en sachant que l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est extrêmement, a des fonctions anthropologiques extrêmement puissantes pour donner un débouché et une utilité à tous les rapports de rivalité entre les individus. Et puis, finalement, quelle transcendance pour remplacer l'auto-transcendance de la raison économique, en sachant que la raison économique, elle débouche naturellement sur une idée de progrès qui émerge en quelque sorte naturellement de la logique de nos comportements. Merci.